Bonjour frères et sœurs. Merci à votre pasteur José Long pour son invitation à venir partager la parole de Dieu avec vous et à rester aussi un peu pour le repas et la suite où il y a autre chose. Voilà. Je vous invite à prier que Dieu nous aide dans sa parole. Seigneur, tu connais ce qu'a été notre semaine, tu connais ce qui nous préoccupe en ce moment. Aide-nous maintenant à nous concentrer, à nous rendre disponibles à toi. Parle-nous, Seigneur, par l'Écriture. Interpelle notre cœur par ton Esprit Saint. Et surtout, rends-nous des gens heureux à ton service, actifs. Et amoureux presque de ta parole. Amen. Voilà, le chemin a été bien balisé. Alors, le passage donc nous a été lu, mais je propose de vous le relire. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 10, les versets 38 à 42. Pendant que Jésus et ses disciples étaient en route, donc Luc 10, 38. Jésus entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut. Sa sœur, appelée Marie, s'était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, qui s'affairait à beaucoup de tâches, survint et dit, « Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse faire le travail toute seule. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas retirée. » Écoutez ou agir? Faut-il choisir? Le récit de Marthe et Marie de Béthanie nous est bien connu dans sa simplicité, je dirais, ce qui rend plus difficile la tâche du prédicateur. Bien sûr, c'est une histoire de deux sœurs. Alors, on peut s'identifier plus facilement si vous avez des sœurs. Si vous êtes déjà femme, si vous êtes deux sœurs, et c'est comme ça dans votre fratrie. Moi, je n'ai pas de sœurs, donc dans ma famille. Vous savez, hein, deux sœurs, ça peut être comme chienne et chat. Hein, enfin, ça peut. Mais ici, les deux sœurs ont des caractères assez différentes quand même. Hein. On les retrouve, donc on a déjà eu quelques passages qui ont été lus, donc ça aide un petit peu. Et curieusement, dans ce récit, on ne parle pas du tout de Lazare. Bon, c'est pas par hasard, je pense. Enfin, mais le comportement des deux sœurs ressemble à ce que ça a été après le décès de Lazare. Et avant ça, Marie était assise à la maison, donc Jean 11, 23, au pied de Jésus, et Marthe est sortie au tombeau pour rencontrer Jésus, pour lui faire des reproches, que voilà. Hein. Ben, elle fait pareil, c'est pareil dans ce passage. Il y a un qui est calme, enfin apaisé, puis l'autre un peu énervé. Bon, je ne sais pas. Et ça nous montre, je crois, déjà, comme nos deux témoignages de Gaël et de Michael, que les gens sont très différents dans leur parcours et dans leur façon de connaître le Seigneur, et même dans l'expression de leur foi. Ça ne veut pas dire qu'on doit être tous pareils, heureusement. Mais ce passage va nous poser une question. Et notre réponse à cette question va peut-être être un peu simple. Voilà, quelqu'un a choisi la bonne part, donc c'est tout simple. Alors, je vous fais remarquer, puisque ce récit de Jésus dans l'évangile de Luc, et je ne suis pas trop fanat des sandwichs, mais si on veut faire un sandwich, ce qui vient avant ce passage, c'est la parabole du bon samaritain. Et ce passage-là justifie le soin de l'autre et l'aide apportée à l'autre. Et juste après ce passage vient l'enseignement de Jésus à ses disciples sur le Notre Père. Peut-on en conclure quelque chose de cet agencement des choses par l'évangéliste Luc ? L'écoute de la parole doit être au cœur et fonde l'action qui précédait. Et la parole aussi doit gouverner notre prière. Alors Jésus et ses disciples sont en route et l'évangile de Luc est structuré à partir du chapitre 9 que Jésus est résolument en route vers Jérusalem pour vivre ce que l'évangile appelle son exode, c'est-à-dire son départ, sa mort, mais sa mort compris comme un nouvel exode. Mais Jésus est en route, disant il a un objectif. Alors mon pasteur à moi, à Courbevoie, et entre guillemets je vous salue de la part de l'église baptiste de Courbevoie, il aime souvent dire que bon, c'est les Anglais ont inventé les ronds-points, hein, que parfois on peut être en mouvement, mais qu'en fait on tourne autour du rond-point et on n'avance pas. Alors la question que Jésus nous dit ce matin, il est en route, il a une destination. Et la question, c'est, dans notre vie chrétienne, est-ce qu'on bouge ? Peut-être, mais est-ce qu'on tourne en rond ? Ou est-ce qu'on avance vers l'objectif que le Seigneur nous donne ? En tout cas, ces deux sœurs, dans ce passage, voilà, Jésus entre dans un village, comme il le fait à plusieurs reprises, dans l'Évangile, et il est reçu donc par Marthe. Marthe de Béthanie, c'est un féminin en araméen, et Ma veut dire maîtresse. Elle est hospitalière, cette Marthe, même si elle aime faire des reproches, elle est hospitalière. Et c'est, là encore, ce n'est pas Lazare qui est là pour les recevoir, c'est Marthe. Elle, comme aujourd'hui encore en Afrique, est en Proche-Orient, l'hospitalité est quelque chose de très important que nous avons un peu perdu en Occident. Et donc elle le reçut bien sûr pour le repas, pour la gîte, mais il y a aussi l'idée de l'accueillir pour ce qu'il est. Elle sait qui il est. Ce n'est pas simplement elle va sur le marché qu'elle prend le premier. Première personne au marché qui dit ben, « vous allez rentrer chez moi ». Non, elle reçoit son message. Et j'ai relevé, enfin je peux transmettre ça peut-être, j'ai relevé qu'il y a plusieurs personnes dans l'évangile, c'est comme ça. Il y a Zachée qui a reçu Jésus chez lui. Ça impliquait qu'il adhérait à son message. Bon, bien sûr, recevoir quelqu'un chez soi aujourd'hui ne signifie pas forcément que on adhère à ce que la personne raconte. Mais là, oui, Zachée reçut Jésus. C'est un signe qu'il changeait de vie. Il y a un autre exemple que Luc nous donne dans le livre des Actes, où Lydie, la commerçante, a reçu Paul. C'est un signe aussi qu'elle était sur le chemin de la conversion, de le recevoir. De le recevoir dans sa vie, dans sa maison. Alors nous disons souvent, j'ai reçu Jésus dans mon cœur. C'est bien joli. Mais je préfère beaucoup recevoir Jésus dans ma maison. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus concret. Jésus n'est pas simplement un confident. Il doit être le maître de ma vie et de ma maison. Dans tous ses aspects. Alors, sa sœur appelée Marie s'était assise au pied de Jésus. Et là, justement, pour différencier avec ce qu'a dit José, votre pasteur, tout à l'heure, la position assise, elle est assise. Elle n'est pas à ses pieds, elle n'est pas tombée à ses pieds. Elle est assise à ses pieds. Et le détail est significatif. C'est-à-dire, c'est une posture d'instruction, oui, de recevoir l'enseignement de Jésus. C'est le cas de Jésus lui-même dans le temple à l'âge de 12 ans. Lui-même, il s'est assis aux pieds des maîtres dans le temple pour écouter leur enseignement, pour le recevoir. Cela aura son importance parce que ce n'est pas simplement s'asseoir dans un sorte de se mettre dans une bulle, d'oublier le monde et d'être un peu ébahi aux pieds de Jésus. Ce n'est pas une sorte de contemplation qui nous retirerait de la vie. C'est une écoute de l'enseignement de Jésus dans le but de le mettre en pratique. Ce n'est pas pareil. Puisque écouter, en hébreu par exemple, écoute Israël, ce n'est pas simplement entendre le message. Ce n'est pas simplement, ah oui, j'ai entendu ce qu'il a dit. Même en français, on distingue, on dit oui, il m'a entendu, mais il ne m'a pas écouté. Écouter quelqu'un, ça veut dire prendre en compte ce que la personne a dit. Et dans l'écriture, écouter, en fait, c'est presque obéir. Donc déjà, vous voyez, le portrait qu'on pourrait avoir, qui serait un peu une caricature de Marie, commence à fondre. Elle c'est pas une fille qui est dans les nuages. Hein. Excusez-moi, mais c'est pas ça. Elle est assise au pied de Jésus parce qu'elle voudrait, elle a ce feu en elle, qu'elle voudrait écouter ce qu'il dit, parce qu'elle voudrait comprendre, elle voudrait mettre en pratique. Et bien sûr, cette posture, cette attitude est recommandable pour nous. Alors, sa sœur, il y a un tout petit détail, là c'est ce qu'on appelle l'exégèse, il y a un petit mot qui dit, alors elle écoutait, enfin celle écoutait littéralement, il y a un tout petit mot, kai, en grec, qui peut dire et ou aussi, dans certains masques. Et donc c'est dit, en tout cas, caresse le signal, et elle écoutait aussi, en parlant de Marthe. Donc elle écoutait quand même. Mais, enfin, moi je ne suis pas trop comme ça, mais elle écoutait, comment on dirait en français, d'une oreille. Elle s'était assise un moment, après elle ressort, elle entre, parce qu'il y a quelque chose sur le feu, enfin je suppose. Mais elle était distraite, comme traduit la colombe. Elle était absorbée, pardon. Elle était distraite, c'est ça le sens du mot. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas vraiment prêter attention parce qu'elle pensait à ce qu'elle faisait. Ça aussi, ça ressemble à nous. Hein. On veut bien prêter attention à Jésus, on veut bien écouter. Mais on filtre, mais on pense à autre chose. Parfois, on est distrait. Ou on a la tête ailleurs, comme on dit. Et donc, ce n'est pas une opposition entre une sœur qui agit et l'autre qui ne fait que s'asseoir écouter. Les deux écoutent, en fait. Mais l'une est distraite et elle se lève et après, elle survint dans la pièce, ce qui indique qu'elle est sortie. Bon, c'est un peu fragile, peut-être, dans le grec, mais c'est quand même possible. Écoutez, c'est ce que dit Dieu le Père à la Transfiguration, dans Luc 9, donc juste un peu avant, écoutez-le, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Donc l'impératif d'écouter le message, le Christ lui-même. Marie écoute, c'est sa parole, et en grec c'est logos. Là je dois avouer, les amis de nos gens, vous ne le direz pas très haut, mais la semeur, là, un peu faible. La semeur dit, elle écoutait ce qu'il disait. Mais le grec dit, elle écoutait sa parole. Bon, peut-être c'est ce qu'il disait, mais sa parole, le logos, il y a l'idée qu'il y a un message. C'est un peu plus fort, quoi. Et puis vous avez aussi dans Luc, c'est intéressant, au chapitre 11, heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu. Donc cette idée semble quand même récurrente dans Luc. Et vous avez aussi la mère de Jésus, que je vais nommer, juste pour ne pas confondre avec l'autre Marie, je vais nommer Myriam de Nazareth. Elle aussi a écouté Jésus, enfin elle écoutait ce que le Seigneur disait. Elle conservait toutes ses paroles. Là c'est des rhématas, ce n'est pas des logos, mais il y a une écoute qui est fécond. Ce n'est pas simplement entendre, c'est digérer et appliquer dans sa vie. Bon, c'est peut-être assez évident, mais... Et c'est ce que dit Jacques aussi dans le passage on ne l'a pas lu, mais qu'il distingue entre l'écoute et la mise en pratique. Mais bon, ça, c'est connu aussi. Alors venons à Marthe après, avant d'appliquer tout cela à nous. Donc Marthe, on le sait bien, donc elle s'affairait à beaucoup de tâches. Alors comme j'ai dit, le verbe signifie être distraite. Alors on peut dire qu'elle était tiraillée. Ça aussi, c'est parlant pour nous d'être tiraillée. Tiraillée entre nos obligations. Entre, j'ai un rendez-vous, mais je... Ah, et on est tiraillé. Qui ne l'est pas? Mais dans un sens très fort, malgré notre engagement chrétien, ou même si nous n'avons pas pris d'engagement chrétien, tiraillé est souvent une situation que nous connaissons. Tiraillé entre deux occupations qui sont légitimes à nos yeux. Elle est tiraillée parce qu'elle est en train de préparer à manger, mais en même temps, elle aurait bien aimé rester écouter avec sa sœur. Alors là, la semeur, donc Marthe, elle sort, elle rentre, etc. Alors là, j'aime bien la Bible à la semeur. Seigneur, ça ne te dérange pas? Ça ne te dérange pas que ma sœur, elle m'abandonne, elle me laisse tranquille. Alors dis-lui de m'aider. Ouh, 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 elle va un peu fort, hein. Elle enrôle Jésus pour taper sur sa sœur. Hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. Si ce n'est pas dit très joliment de ma part, mais pour résumer, ça, c'est ça les familles. Hein. Alors Calvin, il énonce trois reproches contre Marie. Entre autres, ne vous plaignez pas les uns des autres. Oui, ça, il faut l'entendre. Comme c'est facile de se plaindre des uns des autres, des gens qui sont les plus chers, des gens qu'on supporte toute la journée, enfin tout le week-end, les frères et sœurs qu'on dit qu'on aime, mais qui parfois nous cassent les pieds. Et bien sûr, on est très gentil, donc on n'aime pas trop dire ce qu'on... Mais vous savez, une vraie amitié, une vraie fraternité, ce n'est pas se taire, c'est pouvoir dire la vérité avec amour, c'est pouvoir savoir la façon de dire les choses. Pour conserver. Parce qu'il y a un danger dans nos églises, que, oui, avec le Jésus gentil et tout ça, de se taire. Et c'est comme ça que développent les conflits, parce qu'il y a trop de non-dits. Parce que les gens n'osent pas dire, oh, mais je ne voulais pas lui blesser, je ne veux pas la blesser. Je n'osais pas lui dire. Oui, il y a un temps pour ne pas parler, c'est vrai. Mais dans une relation, il y a un temps aussi pour dire des choses. Et donc c'est important. Bon, là, Marthe, elle n'a pas de leçon à nous donner. Là, elle dit tout de suite, mais elle enrôle quelqu'un d'autre pour régler les choses. C'est peut-être pas la bonne manière. Hein. Mais en tout cas, elle y va très fort. Et Luc marque l'autorité de Jésus. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans ce passage. Jésus est nommé Seigneur, le Seigneur. C'est vraiment très respectueux. Et en même temps, on verra tout à l'heure, cet après-midi, si on parle des titres de Jésus. Mais le passage, c'est Seigneur, Seigneur. Et souvent dans Luc. Et puis il se tourne vers Marie et il redit son prénom deux fois. Ça m'a frappé. Ça m'a fait penser aussi à ce que Jésus a parlé à Simon-Pierre. Simon, Simon. C'est à la fois, si vous me permettez, l'énervement de Jésus, mais c'est aussi la tendresse. C'est l'affection. Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes pour, et tu t'agites pour beaucoup de choses. Oh oui, il pourrait nous dire ça, je crois. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Le Seigneur le sait. Il sait dans votre vie de quoi vous vous inquiétez. Il sait ce qui vous agite, ce qui vous trouble. Et sa parole vient pour nous apaiser, pour nous apprendre à ne pas nous inquiéter, à mettre des choses en perspective. Moi-même, je me rends compte que par moments, je suis quelqu'un qui sait s'inquiéter. Là, je ne vous cache pas, j'ai raté mon train, et ce matin, à Saint-Lazare, je m'inquiétais, je dis, mais c'est quel train que je dois prendre? Alors, tout d'un coup, je ne me souvenais plus la destination finale. C'est grave. Hein? Alors, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Alors, dans le passage, une seule est nécessaire. Alors, je vais proposer que le seul qui est nécessaire, ce n'est pas forcément... Oui, parce qu'il y a, une variante dans les manuscrits tardifs qui est assez intéressante, en ce temps de carême, parce que c'est marqué « un seul plat est nécessaire ». Ce n'est pas ce que dit le texte, « une seule chose ». Donc, ce n'est pas forcément en référence au repas. Et une seule chose... Et l'essentiel pour nous, c'est de chercher le royaume de Dieu. Et c'est ce que Jésus dira plus tard dans cet évangile aussi. Que les nations s'inquiètent et s'agitent pour beaucoup de choses. C'est la même expression. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est ça notre priorité. Bon, ça paraît peut-être pas très concret dans la situation précise. Mais c'est ça notre objectif, c'est ça qui doit orienter nos choix de vie. Bon, ça ne nous permet pas de décider s'il faut avoir un plat avec un dessert ou une entrée. Enfin, mais je veux dire, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est de savoir donner du temps pour écouter et donner du temps pour faire le service. Et on va y arriver en conclusion. Donc, ce n'est pas, je crois... Bon, certains ont pensé que c'était un écho. Vous savez, dans l'Église primitive, ça se chamaillait un peu. Acte 6, les apôtres disent, il n'est pas bon qu'on s'occupe des tables, il faut que nous, on se consacre à la prédication, à l'enseignement. Vous imaginez ça? Aujourd'hui, dans l'Église, est-ce qu'on accepte que les pasteurs doivent se consacrer à la prière, à la préparation de leur message, et délaisser des tâches administratives ou des tâches d'organisation, des repas? Alors, c'est pour cela qu'ils ont nommé ce qu'on appelle par la suite des diacres. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas important d'organiser les choses. Mais les uns et les autres ont des tâches différentes. Et c'est cela où je vais en venir. Est-ce que ce passage a un rapport avec ça? Peut-être. Puisqu'on a une Marie qui écoute et une Marthe qui s'épuise à exercer l'hospitalité. Et la question que je me pose... avant de l'appliquer un peu à nous, enfin c'est déjà ça, c'est que dans notre vie chrétienne, est-ce que vous êtes dans l'écoute du Seigneur, est-ce que vous êtes dans l'épuisement? Et en venant ce matin, j'étais en train de me dire, oui, moi je suis plus dans l'épuisement. Alors, voilà la question que nous pose ce passage pour nous, je crois, aujourd'hui. Oui, on pourrait définir la bonne part, etc. Jusqu'à la réforme, il y avait des monastères pour les gens qui voulaient prier, qui voulaient écouter la parole de Dieu. On les a fermés. Il y a toujours cette tension entre prière, la parole, méditer et l'action. Cette tension, elle est au sein de notre vie chrétienne évangélique. Vous savez, bon, les étudiants ne vont pas me contredire, je pense, mais... Parfois, il y a des gens qui veulent évangéliser tout le temps. Hein, ça les dévore. Très bien. Et puis il y en a d'autres aussi qui mettent l'accent, qu'il faut passer beaucoup de temps dans la prière avant de se lancer. Et puis bon, en fait, ils finissent par ne pas très bien se lancer, parce qu'ils ne s'arrêtent pas. Mais notre société est tellement agitée, tellement ça bouge, que de s'asseoir pour écouter le Seigneur et de prier, c'est difficile. C'est difficile. Donc il faut un temps pour cela. Nous le savons. Bon, ce n'est pas écrit dans la Bible qu'il faut un culte personnel entre 8h05 et 8h15 le matin, mais peu importe. Mais ce qui est là pour nous ce matin, en tant que chrétiens du 21e siècle, c'est cette tension entre prière, parole et service et action. Ou si vous préférez, entre travail professionnel et entre vie d'église, vie de famille. Donc c'est là où ce passage ne donne pas de réponse, il montre une tension. Curieusement, la réforme en fermant les monastères a dit que nous sommes tous sur le même pied d'égalité, nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Les uns, comme disait Luther dans son mot « Beruf, vocation », comme pasteur, comme diacre, comme évangéliste, et les autres dans leur travail professionnel. Mais nous avons du mal avec ça, de penser que son travail professionnel, c'est la vocation. On voit bien la vocation pour le pasteur, mais pour les autres, un peu moins. Alors, s'il n'y a pas de monastère, c'est-à-dire que le devoir... Enfin, nous sommes des prêtres tous. Donc la responsabilité d'avoir une relation avec le Seigneur dans la prière, dans l'écoute de sa parole pour obéir au Seigneur, incombe à nous tous. Nous n'avons pas délégué la prière à quelques-uns et l'activité aux autres. Donc nous avons les deux. Et donc le défi aujourd'hui, dans notre monde qui bouge, c'est comment vivre d'une manière épanouie, sans être épuisé, qu'il y ait des temps tout seul ou en église pour écouter la parole du Seigneur, pour prier, pour méditer dans le but d'obéir. Mais aussi les temps de service ensemble, le temps où notre vie professionnelle soit vue comme un service pour Dieu et non pas comme une sorte de nécessité simplement pour gagner pour être un gagne-pain. La vie chrétienne, ce n'est pas un choix entre « Ah ben, je suis en forme le dimanche et le samedi parce que je suis avec les frères et sœurs, et le reste de la semaine, je fais... » Non. Ce n'est pas plus... Le dimanche, c'est une sorte de moment, et on ne le fait pas bien, donc c'est pour ça que ce n'est pas clair pour nous. En fait, déposer nos fardeaux, c'est peut-être pour les oublier, mais le culte, c'est le lieu où nous venons apporter notre travail de la semaine au Seigneur. Pour lui donner comme offrande. Et qu'il nous parle pour nous renvoyer dans la semaine pour notre travail. Ce qui valorise beaucoup notre travail, vous voyez. Mais ce n'est pas pour dévaloriser la prière. Le Seigneur vous appelle tous à cette écoute de sa parole et à sa prière. Il vous appelle tous à travailler pour lui là où vous êtes. Qu'il en soit ainsi. Amen.